what?
Suite et milieu d'une semaine lugubre dans les nouveaux chemins de la connaissance, puisque c'est de Shakespeare qu'il est question depuis lundi et jusqu'à vendredi, Shakespeare et ses tragédies. Après Othello et Macbeth, c'est de Hamlet que nous parlerons ce soir, sublime, magnifique, indépassable Hamlet, en compagnie de Michel Delville et Pierre Michel, auteurs à quatre mains de Hamlet & Co, un livre très utile paru aux éditions de l'Université de Liège. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue sur France Culture. Oh, souillure, souillure de la chair, si elle pouvait fondre et se dissoudre et se perdre en vapeur, ou encore si l'Éternel n'avait pas voulu que l'on ne se tue pas soi-même. Ô Dieu, qu'épuisante et viciée, insipide, stérile me semble le cours du monde. Horreur, il fait horreur. C'est un jardin d'herbes folles montées en graines et que d'affreuses choses envahissent et couvrent. En être là, et seulement 2 mois après sa mort, 2 mois, non, même pas, un roi si grand, qui fut à celui-ci ce qu'Hyperion est au satyre, et pour ma mère si tendre qu'il ne permettait pas que les vents du ciel passent trop durement sur son visage. Cieux et terre, est-ce à moi de m'en souvenir? Quoi? Elle se pendait à lui comme si son désir de se rassasier n'en était que plus vif, et pourtant, en 1 mois, que je n'y pense plus. Faiblesse, tu es femme. Michel Delville et Pierre Michel, dans La poursuite du bonheur, un livre excellent dont on a déjà parlé au Nouveau Chemin de la Connaissance, le philosophe Stanley Cavell invite son lecteur à entrer en philosophie par le biais des comédies du remariage, en particulier celle de Georges Cukor. Et le même Stanley Cavell raconte qu'il a découvert la philosophie avec Shakespeare notamment. Or avec Hamlet, la sublime, la plus belle peut-être des pièces de Shakespeare, il semble bien qu'on soit en présence non pas d'une comédie, mais d'une tragédie du remariage. Qu'en dites-vous, Pierre Michel ?
Ah, c'est certainement une tragédie du remariage.
Il faut dire pourquoi à l'auditeur, qui n'a peut-être pas en tête toute la trame d'Hamlet.
J'y arrive.
Allez-y.
Mais ce n'est qu'un filament de toute l'intrigue de la pièce. Alors la pièce, c'est une tragédie de la vengeance, ou c'est une tragédie, diront certains, de l'incertitude, de la non-action, de l'hésitation. Mais commençons par la tragédie de la vengeance. Pourquoi Hamlet veut-il, ou doit-il, ou a-t-il le devoir de se venger ? Tout simplement parce que son père a été tué par son frère. Et dès le départ, nous apprenons, comme Hamlet, avec Hamlet, en même temps que Hamlet, qu'il doit venger cet assassinat.
C'est un spectre qui le lui apprend. Un spectre dont l'existence n'est pas douteuse, puisqu'il est vu par Hamlet et également par tous les gardes qui sont de faction ce soir-là, ainsi que son ami Horatio.
Oui, ce n'est pas... Oui, d'accord, la présence du spectre n'est pas douteuse, ce qu'il dit non plus, mais il n'empêche que Hamlet, plus tard dans la pièce, veut vérifier ce qu'il lui a dit. Mais pour revenir à cette vengeance au départ, non seulement le frère de Hamlet, père, a tué son frère, mais il a aussi épousé la mère de Hamlet. Et c'est là que ça coince en deuxième lieu, bien entendu. Et vous venez de lire le premier monologue célèbre de Hamlet, qui nous en donne 7 en tout. Mais le premier est extrêmement révélateur. Non seulement Hamlet là, est en train d'hésiter, il se dit « Le monde est trop vil, la vie est trop difficile, je veux me suicider, je veux perdre la vie, mais il ne peut pas parce que Dieu l'interdit ». Et puis, petit à petit, il en arrive à parler et de sa mère, et de son père, et automatiquement de ce qui est devenu son beau-père.
Il faut préciser ici une chose, Pierre-Michel, dans la chronologie de la pièce, c'est qu'au moment de ce premier des 7 monologues de Hamlet, première des 7 tirades ou monologues, comme vous voulez, à ce moment-là, Hamlet ne sait pas encore que son oncle est l'assassin de son père.
Non.
Il est pour l'instant simplement écœuré de constater que sa mère, à qui il en veut véritablement ici, il méprise son oncle, mais il déteste sa mère, enfin il lui en veut en tout cas, que sa mère vient de se remarier avec le frère de son père, ce qui lui semble ahurissant, Michel Delville.
Oui, il y a cette fameuse tirade qui dit, dans la traduction d'Yves Bonnefoy, les gâteaux du repas funèbre ont été servis au festin des noces. Hein.
Économie, Horatio, oui, c'est ça. Ouais, j'aurais mieux aimé rencontrer mon pire ennemi au ciel que de vivre un pareil jour.
Absolument, c'est la manière qu'a Hamlet de s'exprimer au travers d'un mode qui oscille entre le grotesque et le sérieux. Effectivement, il y a une objection fondamentale à ce remariage hâtif. À ce niveau-là, peut-être dans la pièce, quelque chose qui relève de la convention, dans le sens où il est indéniable que le public élisabétain, dont il faut distinguer le public contemporain et les nombreuses relectures et écritures de la pièce, condamne ce remariage avec Hamlet. On est certain, c'est évident. Maintenant, la manière dont Hamlet ressent ce remariage, effectivement, est d'autant plus douloureuse que, par la suite, il obtient la preuve.
Il obtient la preuve de l'assassinat de son père.
Que le spectre a dit la vérité.
Alors, à ce mariage honteux, donc, se double, ouais. Enfin, s'ajoute la félonie d'un frère qui, donc, assassine son aîné pour prendre sa place et à la tête du Danemark et dans le lit de son épouse, qui est également la maman d'Hamlet. Je dis maman ici à dessein, puisqu'un de nos auditeurs savants nous a écrit pour fustiger les hypocorismes, je crois, que nous employons, qui c'est cette façon qu'on a de désigner la mère par le nom de maman, le nom familier de maman. En ce qui concerne Hamlet, parler de maman, c'est tout à fait pertinent ou mertinent, dirait Lacan. Alors, revenons-en au texte lui-même, ouais. Et à ce premier monologue, Pierre-Michel. Hamlet est d'emblée triste. Il est d'emblée mélancolique. Il est mélancolique avant de savoir qu'il doit venger son père. Est-ce cette mélancolie initiale, j'allais dire presque natale, qui l'empêche d'agir aussi rapidement qu'il promet au spectre d'agir? Puisque finalement, Hamlet sait dès le début de la pièce, juste après le monologue qu'on a lu, il sait dès le début de la pièce qu'il va y avoir qu'il y a un assassinat et qu'il doit le venger. Il sait quelle est sa mission et il met 5 actes à l'accomplir, ce qui est tout à fait énigmatique.
Oui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais si je peux revenir à ce monologue un instant. Lorsqu'il compare son père à son oncle, vous parliez tout à l'heure de remariage, de son père, il n'a que des mots tendres. « Et pour ma mère, dit-il, mon père était si tendre qu'il ne permettait pas que les vents du ciel passent trop durement sur son visage, vous l'avez dit tout à l'heure. » Lorsqu'il parle de son oncle, c'est exactement l'inverse. Et de sa mère, il dit « Quelle hâte criminelle de courir si ardemment au drap incestueux !» C'est le dégoût qu'il exprime là, le dégoût pour le remariage, mais peut-être va-t-il plus loin, car entre les deux, il y a cette fameuse réflexion « faiblesse, tu es femme ». Et de là, nous arrivons à Ophélie, et ceci explique peut-être plus loin son rejet d'Ophélie. Son dégoût pour sa mère qui se remariait avec cet assassin, il ne sait pas encore, mais il le saura bientôt, et le fait qu'elle se précipite dans des draps incestueux s'étend à toutes les femmes.
Vous êtes psychanalyste, Pierre-Michel ?
Non, pas du tout.
Mais parce que vous psychanalysez Hamlet, mais pourquoi pas ? Effectivement, quand il rejette Ophélie, il le rejette au nom du fait que c'est une femme, il faut mieux qu'elle prenne le couvent. C'est ce qu'il lui dit.
Oui.
Il la rejette après avoir entendu la nouvelle du remariage de sa mère avec son père. C'est donc par écœurement qu'il rejetterait Ophélie ? Vous diriez ça aussi, Michel Delville ?
Certainement par écœurement. Alors, il faut se souvenir ou rappeler que la pièce, l'intrigue de la pièce est basée sur un certain nombre de dédoublements, de répétitions. Il y a le dédoublement du conflit entre Hamlet, en tout cas de la relation entre Hamlet père et Hamlet, et celui du roi de Norvège et son fils Fortinbras. Il y a Laërte qui devient le double conventionnel de Hamlet.
Précisons ici hein, pour l'auditeur que Laërte et Ophélie dont vous parlez sont tous les deux les enfants de Polonius, qui est l'essence même du courtisan, encore que c'est un personnage complexe, on va en parler. Laërte et Ophélie sont les deux enfants de Polonius, qui est donc dans la cour du roi, qui est le confident, l'ami du roi, celui qui le suit, qui l'aide et qui l'épaule. Allez-y.
Tout à fait. Alors, il y a, donc, pour être plus proche de votre question, le dédoublement, en tout cas le parallèle entre Claudius et Hamlet père, qui est, Claudius est le double inversé.
Claudius est le frère, hein, c'est le salaud.
Le frère, donc, le salaud, l'oncle qui est donc, qui est comparé à un moment donné à... On parle de Caïn et Abel dans la confession qu'il fait un peu plus tard dans la pièce. C'est le contraire d'Hamlet père qui est Hyperion. Lui, c'est le satyre, c'est le parangon de vertu contre la bête. Hamlet est obsédé par la bestialité de l'homme. Et pour répondre de manière un peu plus précise à la question « Pourquoi tarde-t-il tant hein, ?» question qu'on pose souvent au sujet de cette pièce, à effectuer, à suivre les ordres de son père.
Je voudrais préciser cette question d'ailleurs. Oui. Non seulement il tarde à accomplir sa vengeance, mais en plus, il n'accomplit sa vengeance, j'allais dire presque que incidemment. C'est-à-dire, à la fin de la pièce, il y a ce duel entre Hamlet et Laërte. Il découvre une trahison, que le roi a empoisonné le vin, que la reine, c'est un massacre, hein, que la reine boit par inadvertance le vin qui était destiné à Hamlet. Hamlet lui-même est blessé par une flèche empoisonnée. Les épées se sont échangées, donc Laërte lui-même est blessé. Laërte va mourir, Hamlet va mourir, la reine va mourir. Et Hamlet, à ce moment-là, fou de rage, fait fermer les portes et tue le damné danois, c'est-à-dire le roi Claudius. Mais il le tue sous le coup de la colère, comme si il venait à l'instant de découvrir une trahison. Donc non seulement il tarde à le tuer, mais en plus il le tue sur un coup de tête.
Il y a des raisons pour ça. Bon, il y a des raisons pratiques d'abord. Il serait faux de dire que Hamlet est convaincu de la culpabilité de Claudius au début de la pièce, parce que d'abord il y a un problème par rapport au spectre. Le spectre, pour la conscience, pour le public élisabétain, peut-être, soit, et là il y a une divergence entre les visions catholiques et protestantes, on va pas entrer là-dedans, mais soit un véritable fantôme catholique qui erre dans les limbes et qui vient réclamer vengeance, soit, selon la vision protestante, un démon qui égare, qui est censé égarer Hamlet et le mener sur une fausse piste. Hamlet est un homme de la Renaissance. Il n'est pas, comme Pierre-Michel a dit tout à l'heure, un revenge tragedy hero, un héros de la tragédie, de la vengeance traditionnelle. Et dès lors, il se pose la question de savoir si le spectre dit la vérité.
On va l'écouter, Michel Delville, voilà, avec vous. Michel Delville et Pierre-Michel. Oui. On va écouter le spectre dans une adaptation que Pagnol propose de Hamlet en 1950 avec Jean Marais dans le rôle de Hamlet. Écoutez.
Où veux-tu me conduire? Parle. Je n'irai pas plus loin.
Écoute mes paroles.
J'écoute.
Il sera bientôt l'heure où je dois retomber dans les flammes, le soufre et les tortures de l'enfer.
Hélas, pauvre homme.
Garde ta pitié, mais écoute attentivement ce que je vais te révéler.
Parle. Je suis prête à t'entendre.
Et tu seras prêt à me venger quand tu sauras.
Quoi?
Je suis l'esprit de ton père, condamné pour un temps à errer la nuit, et le jour à jeûner dans la prison de flammes, jusqu'à ce que les crimes de ma vie soient consumés et purgés. S'il ne m'était pas défendu de dire les secrets de mes cachots, je pourrais te faire un récit dont le moindre mot déchirerait ton âme, glacerait ton jeune sang. Tes deux yeux sortiraient comme des étoiles de leurs orbites, tes cheveux se dénoueraient, se dresseraient sur la tête, comme les aiguilles du porc-épic furieux, mais... ces choses de l'éternité ne peuvent être confiées à des oreilles de chair et de sang. Écoute! Écoute! Oh, écoute! Si jamais tu aimas ton père chéri...
Oh, Dieu!
Punis son lâche et sacrilège assassinat!
Assassinat?
Le meurtre est toujours horrible. Même s'il a des excuses, mais celui-ci, plus que n'importe quel forfait, est horrible, étrange et contre nature.
Parle vite, afin que plus rapide que les ailes de la pensée et de l'amour fondent sur le criminel ma vengeance.
Plus rapide que les ailes de la pensée et de l'amour, tu parles. On est au début de l'acte 1 et 5 actes plus tard, ce sera toujours pas fait. Et pourtant, il sait déjà de quoi il s'agit. Une question sur le spectre, Michel Delville. Comment se fait-il que ce spectre que Marcellus, Bernardo, Horatio et Hamlet donc voient dès le début de la pièce, voient ensemble, et dont à ce titre on peut considérer que l'existence entre guillemets n'est pas douteuse, comment se fait-il que ce spectre, dans la sublime et très fameuse scène à laquelle on pourrait consacrer une semaine entière d'émission, la scène 4 de l'acte 3, c'est-à-dire la scène entre Hamlet et sa mère, dans cette scène le spectre apparaît et Hamlet cette fois-ci est seul à le voir. Il lui dit: que voulez-vous, gracieuse figure? Et sa mère lui dit: mais enfin, vous parlez dans l'air, vous vous adressez à un tabouret. Comment se fait-il?
Ça, c'est une question à laquelle je peux malheureusement pas répondre. Beaucoup de critiques.
Personne n'a pu jusqu'à vous, donc ce serait bien que vous le fassiez.
Jusqu'à nous, je pense qu'on peut, il y a deux options qui peuvent se présenter. D'abord, la première serait que le spectre effectivement apparaît à tout le monde au début de la pièce. Il est donc réel entre guillemets pour le public, et Shakespeare décide d'introduire le doute dans la scène de la chambre, dans le sens où et donc de rendre les choses un peu plus complexes en insinuant peut-être que Hamlet, que la folie de Hamlet n'est pas que feinte. Ça, c'est une proposition qui a déjà été énoncée par certains critiques.
Oui, mais pardonnez-moi, mais ça ne tient pas, puisque quand elle lui dit, quand la reine lui dit, voilà ce que forge votre cerveau à inventer ces images sans corps, le délire est habile, il répond: le délire, mais mon pouls est régulier autant que le vôtre. Oui. Il fait le bruit de la santé, ce n'est pas la folie qui hantait ma parole. De sorte que Hamlet, ici, montre bien qu'en vérité il ne fait que contrefaire la folie, puisque Hamlet fait semblant d'être
absolument
fou pendant 4
actes. C'est pour ça que je n'adhère pas du tout à cette seconde option, mais c'est une des options qui avait été proposée par certains critiques d'une mouvance psychanalytique.
Et Pierre-Michel, vous avez une hypothèse sur cette bizarrerie du spectre, tantôt visible seulement par Hamlet, tantôt par tous?
Je n'ai pas d'hypothèse particulière, mais je vais quand même en lancer une.
Allez-y.
Et si c'était sa conscience? Parce que si c'est sa conscience, évidemment, sa mère, elle ne peut pas la voir. Elle ne peut pas voir ce spectre. Mais bon, je ne sais pas, on laissera ça aux critiques.
On pourra laisser ça aux critiques, sauf que c'est sa conscience. Dans l'hypothèse où c'est sa conscience, ce qui est intéressant, c'est que dans la première apparition du spectre, le spectre dit à Hamlet « ne fais pas de mal à ta mère ». Il lui dit bien cela. Et dans la deuxième apparition, alors il lui dit bien sûr « ne lui fais pas de mal », mais ne l'épargne pas non plus.
Non, non, mais il ne lui fait pas de mal.
Il lui brise le cœur quand même,
injurie évidemment, bien entendu, en parole il lui fait
il la traite de dévergondée,
d'inceste, adultère, tout ce que vous voulez, bien entendu, mais ça peut être sa conscience.
Bien.
Essayez d'imaginer que tout à coup Hamlet voit un spectre et il se dit: mon Dieu, mon père m'a dit de ne pas lui faire de mal, et voilà.
Conscience sous la forme d'une réminiscence.
Peut-être.
Bien, le reste
c'est
est
pas impossible.
D'accord, si vous voulez, pourquoi pas. Mais alors, revenons-en à la question de la vengeance, Pierre-Michel. Pourquoi donc tarde-t-il par exemple, dans Le Roi Lear, au tout début de la scène, de la scène d'exposition, Lear, on va en parler vendredi avec Delphine Le Monnier-Texier, Lear, furieux de Kent, qui refuse de faire le courtisan et qui lui dit la vérité, Lear dit: attention Kent, l'arc est bandé, évite le trait. Et on sent que la fureur de Lear est imminente et que le trait va s'abattre très rapidement. Dans Hamlet, on a l'impression que tout part sur le même rythme, et puis tout d'un coup, tout se met à ralentir. On va vers la pantomime, la folie, un amour déçu. Ça traîne, et c'est sublime.
Oui et non. Vous avez raison, mais d'un autre côté, on pourrait se poser une autre question. Supposons un instant que Shakespeare ait choisi ce thème pour le traiter d'une manière un peu en dérision. N'oublions pas une chose, il y a le thème principal de la vengeance, Hamlet, fils, doit venger le meurtre de son père. Il y a deux autres thèmes de la vengeance dans la pièce. Il y a d'abord le thème de Fortinbras, qui doit venger son père,
C'est Norvège. Ça, c'est Norvège.
C'est Norvège qui doit tuer, qui doit venger son père, qui a été tué par le père de Hamlet, souvenons-nous. Et il y a aussi Laërte, dont le père a été tué par Hamlet.
Voilà, Polonius.
Voilà. Alors, nous avons là deux thèmes qui se développent, si vous voulez, en parallèle avec le thème principal de la vengeance de Hamlet. Alors, prenons Fortinbras. Fortinbras doit, il a une mission, il doit, comme Hamlet, se venger. Seulement, ça ne va pas très bien sur le plan politique entre la Norvège et le Danemark.
De sorte qu'il a des relations plutôt cordiales, finalement, avec Danemark.
Pas au départ. Mais Claudius, en bon roi, très efficace, envoie des ambassadeurs au roi de Norvège pour le prier de calmer Fortinbras. Et que fait Fortinbras? Que fait le roi de Norvège? Il paye Fortinbras pour que Fortinbras ne se venge pas. Donc voilà quelqu'un qui renonce à sa vengeance en se faisant payer.
Or,
c'est pas beau.
Pour en venir au deuxième exemple, Laërte, qui est un noble jeune homme.
J'y arrivais.
Il y a entre Hamlet et Laërte, Pierre Michel, une forme de gémellité. Hamlet doit venger le meurtre de son père par son oncle. Laërte doit venger le meurtre de son père par Hamlet.
Et Laërte veut le venger. Et puis il y a cette fameuse conversation entre Hamlet et Laërte, où Hamlet dit, mais vous savez, quand Polonius, votre père, cher Laërte, a été tué, il a été tué non par moi, mais par l'autre Hamlet, qui était fou. Première chose. Deuxième chose, que répond Laërte? Laërte répond, mon sentiment filial est satisfait. Vous vous excusez, donc mon sentiment filial est satisfait, dont les raisons étaient dans cette affaire l'aiguillon le plus vif de ma vengeance. Sur le point de l'honneur, je suis plus réservé. Alors, encore une fois, ce qui se passe, c'est que ces deux trames de vengeance, Fortinbras, Laërte, ce sont des vengeances traditionnelles, conventionnelles. C'est comme ça que ça doit se passer. D'un côté, on met l'argent sur la table, de l'autre côté, on met l'honneur sur la table. Mais Hamlet, il ne fait pas ça, lui. Ce n'est pas l'argent qui le tente. L'honneur, ça veut dire quoi? L'honneur vis-à-vis des autres. Ça n'intéresse pas Hamlet. Alors, si vous voulez, toute la pièce est une espèce de démantèlement du thème de la vengeance telle qu'elle est perçue sur le plan conventionnel. Et la vengeance de Hamlet n'est pas une vengeance conventionnelle. Elle prend toute la pièce. Et vous avez mentionné tout à l'heure la scène finale, ce carnage final où Hamlet tue le roi. Mais Hamlet ne dit pas un mot dans la scène finale de son père. Il dit « Je te tue, Claudius, parce que tu viens de tuer ma mère ». Rien d'autre. Il traite Claudius d'assassin, d'incestueux, d'adultère, hein, tout ce qu'on veut.
Danois de l'enfer, ce que Desprats traduit par damné danois, je crois.
Mmh. Oui. Toutes les insultes que vous voulez, mais Hamlet ne dit pas un mot de son père. Mais il le venge quand même, mais sans rien dire.
Alors, à la place de cette vengeance en bonne et due forme, Hamlet met, à la place de l'argent ou bien du sentiment d'honneur, Hamlet met la mélancolie. C'est particulièrement vrai dans la petite tirade qu'on va entendre maintenant. Écoutez, c'est Jean Marais toujours.
Si vous m'aimez, parlez franchement.
Monseigneur, on nous a envoyé chercher.
Je vais vous dire pourquoi. Ainsi, j'irai au-devant de vos révélations et la discrétion que vous devez au roi et à la reine ne perdra pas une plume. J'ai depuis peu perdu toute ma gaieté, délaissé tous mes exercices habituels. Et vraiment, je suis d'une humeur si sombre que cette ravissante création, la terre, me paraît un stérile promontoire. Ce dais magnifique, l'air, voyez-vous, cette somptueuse tenture et le firmament, ce toit splendide, clouté d'or et de feu. Eh bien, tout cela ne me semble rien d'autre qu'un sale amas de vapeurs pestilentielles. Quel chef-d'œuvre que l'homme, qu'il est noble en sa raison infinie, en ses facultés, combien harmonieux et admirable dans sa forme et ses mouvements, en ses actes, semblable à un ange et par son intelligence si pareil à Dieu. Ah, la merveille du monde, la fleur des êtres. Qu'est-ce pourtant à mes yeux cette quintessence de la poussière?
Pierre Michel et Michel Delville sont nos invités aujourd'hui pour ce, au milieu, à mi-chemin de cette semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent aux tragédies de Shakespeare. Aujourd'hui, c'est d'Hamlet que nous parlons. Il faudrait dire deux Hamlet, d'ailleurs. Pierre Michel et Michel Delville, qui sont les auteurs à quatre mains de Hamlet & Co, paru aux éditions de l'Université de Liège en 2003. Le passage qu'on vient d'entendre se trouve à la scène 2 de l'acte 2. C'est un moment où Hamlet parle à Rosencrantz et Guildenstern, hein, les deux éponges, les deux flatteurs dont il se flatte d'abord d'être l'ami avant de découvrir qu'ils sont des fourbes et de leur faire couper la tête à sa place. J'épargne ici les détails, notamment de la décapitation, mais également des péripéties qui y conduisent. Donc avant de leur faire couper la tête, Hamlet, parlant à Rosencrantz et Guildenstern, fait cette espèce de tirade magnifique dans laquelle il décrit sa mélancolie. Il voit le monde donc comme un amas de vapeurs pestilentielles, ce qui irait dans le sens chez Hamlet d'une mélancolie natale, d'une mélancolie native. Il dit « J'ai depuis peu, je ne sais pourquoi, comme toute mélancolie, hein, c'est une cause perdue, cette humeur noire, on va bientôt parler de mélancolie dans les nouveaux chemins de la connaissance, c'est une cause perdue et je voudrais mettre ça en miroir et avoir votre sentiment avec, beaucoup plus loin dans la pièce, la scène 1 de l'acte 5 qui se passe au cimetière, où Hamlet parle avec un fossoyeur qui lui montre un crâne. Et ce crâne, c'est celui de Yorick, l'aimable Yorick qui le faisait tant rire. Et Hamlet, à cet instant, voit ce crâne et il est saisi du sentiment de la vanité de toute chose devant ce crâne. Mais alors, je voudrais vous poser la question à l'un et l'autre, Michel Delville et Pierre Michel. Est-ce parce que le bouffon du roi est devenu un squelette, parce qu'il a le crâne dans la main, qu'Hamlet est triste, ou est-ce parce qu'Hamlet est triste qu'il a le sentiment de la vanité de toute chose en prenant ce crâne dans la main? Michel Delville.
Oui, bon.
Dans quel sens ça marche? Est-ce qu'il est mélancolique avant d'être accablé par la nouvelle qu'il apprend, ou est-ce qu'il est mélancolique au départ?
Il y a peut-être un détail dans la pièce qui peut nous aider à expliquer l'origine de la mélancolie d'Hamlet. Bon, d'abord, la mélancolie, c'est une maladie qui est identifiée immédiatement par le public élisabétain. Donc, on doit se remettre dans la peau de ce public qui connaît très bien cette convention. L'opposé de la mélancolie, c'est l'érotomanie ou encore l'hystérie dont souffre Ophélie. Donc ça, ce sont des points de repère que les élisabétains connaissaient très bien. Alors, présenter un personnage qui est d'emblée mélancolique, ce n'est pas un problème pour le public élisabétain. Maintenant, l'origine de cette mélancolie date de toute évidence, vous l'avez dit, d'avant la pièce, avant le premier acte, avant la première scène du premier acte, Hamlet est déjà découragé.
Il est présenté comme triste depuis longtemps.
Il est présenté comme triste depuis longtemps, mais il ne faut pas oublier que Hamlet est l'ami d'Horatio, qu'on définit souvent comme le stoïcien, le sceptique, le pessimiste ou le réaliste de la pièce.
C'est surtout l'ami fidèle. Hein.
C'est son ami fidèle, c'est son seul ami. Et d'ailleurs, Hamlet ne semble être capable d'être l'ami que des gens qui sont inférieurement socialement à lui. C'est un autre point intéressant. Et pour revenir à la question, d'où vient la mélancolie? Hamlet est un homme qui a été contaminé, je crois, par un certain nombre de théories, d'écrits philosophiques qu'il a récoltés peut-être à Wittenberg, qui sait, Wittenberg qui est le berceau de la réforme. Donc, ce qui d'une certaine manière, répond aussi à la question de savoir pourquoi il tarde tant. Hein. La réforme, elle prône la réflexion, la contemplation, l'autodétermination, mais aussi le doute. Et il y avait à l'époque, j'ai relevé d'ailleurs il n'y a pas tellement longtemps, des similarités absolument remarquables entre les écrits de Montaigne, les essais de Montaigne qui circulaient à l'époque en Angleterre, dans la tradition de John Florio, sous forme de manuscrits. Ils ont été publiés 2 ans après la première représentation d'Hamlet, en 1603 donc. Mais déjà dans ces écrits-là, donc Shakespeare avait certainement connaissance, on retrouve l'extrait que vous avez choisi est vraiment très 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 éloquent, puisque Hamlet définit l'homme comme une quintessence de poussière, pour citer la citation de Bonnefoy. L'homme n'a pas de charme pour moi, ni la femme non plus, quoi que semble dire votre sourire. Il s'adresse à Rosencrantz et Guildenstern, bien sûr. Et on a, dans les essais de Montaigne, il s'agit presque d'une paraphrase Parce que avant cela, Hamlet parle du ciel, ce dais splendide, regardez ce magnifique plafond, ce toit majestueux, constellé de flammes d'or, et bien il ne m'apparaît plus que comme un noir amas de vapeurs pestilentielles. Dans la traduction de Florio, on a pratiquement la même chose. Il nous demande d'admirer ce qu'il appelle, dans sa traduction, « the admirable moving of heaven's vault », et tout de suite après, il nous dit « mais considérons donc pour cette heure l'homme seul, sans secours étranger ». L'homme, c'est, nous dit Montaigne, est une créature misérable qui n'est même pas maître de lui-même et qui, malgré tout, s'autoproclame maître et empereur de l'univers. Il n'est
Michel
pas possible
Delville, on pourrait...
réponse soit dans Montaigne.
Mais alors justement, on pourrait d'ailleurs ajouter à votre interprétation le fait, c'est François Larocque qui nous l'apprend dans l'émission sur Roméo et Juliette qu'on va diffuser demain, que « vault » signifie la voûte du ciel, mais également le caveau. Également le caveau, c'est-à-dire également la tombe. Et ce qui nous conduirait peut-être à un autre point commun entre Shakespeare et Montaigne, reste à savoir si Shakespeare avait bien lu Montaigne. Le plus beau des chapitres des essais, c'est-à-dire le chapitre sur la mort, que philosopher c'est apprendre à mourir, en tout cas l'un des plus beaux, est un passage dans lequel Montaigne dit « Ayons constamment la mort sous les yeux. Représentons-nous la mort en permanence. Ne faisons pas comme si la mort n'existait pas. Au contraire, apprenons à la domestiquer. Qui a appris à mourir, il a désappris à servir. Est-ce que ça n'est pas cette leçon-là que Hamlet retient quand il voit le crâne de Yorick, Pierre-Michel ?
C'est tout à fait possible, mais je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. N'oublions pas que ce n'est pas Hamlet qui dit « il y a quelque chose de pourri dans le monde ».
C'est Marcellus. Le halbardier.
Dans le royaume du Danemark, c'est Marcellus, à l'acte 1. Et toutes les hésitations d'Hamlet, elles peuvent être attribuées à une attitude de l'homme qui pense plutôt qu'il n'agit. Vous me direz, ça va de soi. Non, Hamlet n'agit pas tellement parce qu'il pense. Ce que les autres personnages ne font pas. Tous les autres personnages agissent selon des conventions. Tout est établi comme cela. C'est comme ça qu'on est roi, c'est comme ça qu'on est grand chambellan, c'est comme ça qu'on est la fiancée de Hamlet, etc., etc., etc. Il y en a deux qui pensent. Dans la pièce, il y a Hamlet et il y a Horatio en second, si vous voulez.
Il n'y a pas que deux, il y a aussi Claudius. Pierre-Michel. Claudius, quand il se met en prière, quand il regrette son crime, quand il dit « mon crime est fétide », il empeste le ciel. Claudius qui sait qu'il n'aura plus jamais de sommeil parce
Bien
qu'il
sûr.
A tué son frère. Cet
Bien
homme
sûr.
La pense car il est saisi par le regret.
Il est saisi. Là où on a beaucoup écrit là-dessus, vous savez.
C'est pour ça que c'est faux.
Non, il est saisi par le regret ou bien c'est une simple forme qu'il donne et qui, pour pouvoir donner un prétexte que Shakespeare... Attendez, c'est peut-être une prière que fait dire Shakespeare à Claudius pour avoir un prétexte pour que Hamlet, à ce moment-là, dise « je ne peux pas le tuer maintenant parce qu'il serait en prière et il irait au paradis ».
On est ici à la scène 3 de l'acte 3. Oui. « Où mon crime est fétide, il empeste le ciel. La plus vieille malédiction, celle du premier fratricide, Caïn et Abel, pèse sur lui et je ne peux prier. Mon désir en est grand et ma volonté, mais le poids de ma faute les accable. » Et il termine cette longue, longue tirade en expliquant que « mes mots prennent leur vol, ma pensée se traîne et des mots sans pensée n'atteignent pas le ciel ». Et entre les deux, il y a Hamlet qui est avec son épée derrière et qui dit « ben allez, faut y aller, faut lui couper la tête, faut le tuer ». Et il n'y va pas, il se dit « mais non, parce que si ça se trouve, si je le tue pendant qu'il prie, il ira au paradis ». Or, dans la prière, Claudius dit lui-même qu'il ne peut pas aller au paradis. Et pourtant, là encore, énigme, Hamlet ne tue pas.
Non, et il y a un autre point qu'il faut soulever ici. N'oublions pas que c'est du théâtre. Et c'est une façon de dire au public élisabétain comme à l'heure actuelle à nous, public au théâtre, qui regardons la pièce Hamlet, c'est une façon de dire « oui, Claudius a tué Hamlet ». Maintenant, c'est certain.
C'est-à-dire, Claudius a tué Hamlet.
Tu veux dire Hamlet père.
Hamlet père.
Ah, Hamlet père, excusez-moi,
on était
excusez-moi, on était perdus. On va entendre tout de suite, d'ailleurs, un extrait de la scène 4, de l'acte 4, autre façon, là encore, pour Hamlet, de retarder les choses et de s'indigner du fait que les choses tardent tant de son fait, ce qui rend la chose d'autant plus énigmatique. Écoutez Jean Marais.
Comme la moindre occasion m'accuse, comme tout est prône, ma traînante vengeance. Qu'est-ce qu'un homme, si son souverain bien et l'emploi de son temps ne sont que dormir et manger, une bête, pas plus. Bien sûr, Celui qui nous a doués de cette vaste pensée qui va dans le passé et fouille l'avenir ne nous a pas abandonné cette puissance et cette raison presque divine pour moisir en nous. Inutile. Or, soit oubli bestial, soit scrupule de poltron qui, pensant trop précisément au résultat et pensée qui, coupée en quatre, ne contient qu'une part de sagesse contre trois parts de lâcheté. Je ne sais pas pourquoi je vis encore pour dire « il faut faire cette chose » puisque j'ai la cause, la volonté, la force et les moyens de la faire. Des exemples gros comme le monde me poussent à l'action. À moins cette armée si nombreuse et qui coûte si cher, conduite par un prince jeune et distingué, dont l'ardeur gonflée d'une ambition divine se moque du dénouement inconnu, et expose ce qui est mortel et fragile à toutes les audaces de la chance, du danger et de la mort pour une coquille d'œuf. Être vraiment grand, ce n'est pas se battre pour une cause majeure, mais c'est trouver cette cause majeure dans une bagatelle, si l'honneur est en jeu. Quel est donc mon personnage, moi, fils d'un père assassiné, d'une mère déshonoré, enflammé par ma raison et par mon sang? Je ne fais rien, tandis qu'à ma honte, je vois 20 000 hommes qui marchent à la mort pour une illusion, une gloriole, qui vont à leur tombe comme on va au lit, vont se battre pour un terrain où ils n'ont pas la place de se battre, où l'on ne peut creuser une tombe assez grande pour contenir les morts. Or, à partir de cet instant même, si je ne pense pas au meurtre, il vaudrait mieux ne plus penser.
Ça, c'est La Folie d'Ophélie, interprétée par Maria Callas. De La Folie d'Ophélie, d'ailleurs, nous n'avons pas encore parlé, mais avant d'y venir, ou peut-être d'ailleurs de ne pas y venir, car le temps passe, le temps presse, et j'ai la faiblesse de penser que ça n'est pas essentiel, je voudrais, Michel Delville, qu'on revienne sur ce monologue d'Hamlet qui se propose, enfin, il était temps, hein, puisqu'on est quand même à l'acte 4, de ne plus penser et de passer à l'acte.
Oui, effectivement. J'aimerais apporter quand même un rectificatif à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à l'indécision d'Hamlet. Il faudrait quand même être un peu modéré par rapport à cette vision du héros ou de l'anti-héros de la pièce. D'abord, on a cité l'interdit religieux, Claudius Prie, il n'a pas l'occasion, il ne va pas l'envoyer au paradis alors que son père est dans les limbes. Il y a quand même ici, il parle de sa troublante vengeance, il s'accuse d'être lent, mais il ne faut pas oublier que Hamlet est responsable de 6 décès dans la pièce, directement ou indirectement. Il ne faut pas oublier que dans la chambre de sa mère, Gertrude, il croit tuer Claudius au travers du rideau qui le sépare de Polonius. Et c'est le hasard, vous l'avez dit, je pense.
Oui, mais hier, s'il avait. De Macbeth, mais justement, dans la scène avec la mère. Oui. Mais Michel Delville, si c'était Claudius qui s'était caché derrière le rideau quand Hamlet va parler à sa mère, et non pas Polonius, oui. Et si donc Hamlet aurait tiré son coup d'épée et tué Claudius, d'ailleurs il se demande si c'est le roi qui l'a tué, il aurait, comme à la fin du cinquième acte, incidemment tué Claudius. Là encore, ça n'aurait pas été mûrement réfléchi, non, Pierre-Michel,
oui,
sur ce point.
Et la pièce se serait terminée là.
Oui, sauf qu'on se demande, la pièce serait terminée là, mais on se demande si le meurtre de Claudius n'est pas qu'un prétexte au déploiement de cette mélancolie souveraine qui vaut à Hamlet de comprendre les êtres, de théâtraliser les choses, de feindre la folie pour gagner en sagesse. Michel Delville, Pierre-Michel, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Je pense que le hasard, comme vous l'avez dit hier dans l'émission que j'ai eu l'occasion d'écouter sur Macbeth, contamine les conventions traditionnelles de la tragédie, le destin, la providence. Et il est partout, et c'est pour ça que le théâtre de l'absurde s'en empare avec Tom Stoppard, Ross and Gill Are Dead, au XXe siècle. C'est pour ça que cette pièce nous parle tellement. L'absurde, le hasard domine. Malgré tout, il ne faut quand même pas s'éloigner de la réalité du contexte de la pièce. Tuer un roi, ce n'est pas rien. Il n'est pas acceptable de... je ne pense pas que Hamlet puisse en tirer en tuant Claudius sans preuve... Sauf en disant, j'ai des témoins, il y a un spectre qui est apparu. Et en même temps, donc ça, c'est au ras des pâquerettes comme interprétation, et c'est quand même intéressant. Et c'est quand même, je pense, pertinent dans le cadre de la question que vous posiez. Deuxième, et c'est la même raison qui pousse Claudius, roi, comme Pierre-Michel a dit tout à l'heure, avisé et compétent, à détourner l'attention du peuple, qui adore Hamlet. Hamlet est proche du peuple. Il le dit, Claudius, à plusieurs reprises. Du scandale de son remariage, hâtif, en dirigeant l'attention du peuple vers le conflit avec la Norvège, et puis, on l'a dit, résolu avec ce compromis qui consiste à envahir la Pologne. Mais donc, très rapidement, il y a le hasard, effectivement, mais il y a un certain nombre de choses qui plaident pour une réhabilitation d'Hamlet en tant que héros actif. C'est d'ailleurs ce que le parti pris du film de Zeffirelli
avec Mel Gibson avec et Glenn Close.
Avec Glenn Close, qui encore une fois, Glenn Close, qui est à peine plus âgé que Mel Gibson dans le film, qui ajoute encore à ses interprétations psychanalytiques. Mais donc il y a quand même des éléments qui indiquent qu'il fait ce qu'il peut quand même, étant donné qu'il est en plus investi d'une conscience que tu as, Pierre, tout à l'heure définie comme étant celle qui résulte de sa familiarité avec le nouvel esprit renaissant, la réforme.
Alors, je vous accorde, Michel Delville, que Hamlet est actif, mais on pourrait dire qu'il s'éparpille un peu. Alors, il y a notamment une pièce dans la pièce, une mise en abîme du théâtre, un moment merveilleux d'ailleurs de Hamlet. Le moment où, comme toujours avec Shakespeare, où pour révéler la vérité, on emprunte le détour du théâtre. C'est par le théâtre que la vérité reprend ses droits, que la vérité d'une sagesse, que la vérité d'un discours reprend ses droits. C'est par la mise en scène. De sorte que Hamlet se transforme en metteur en scène, fait venir des acteurs pour interpréter une pièce qui ressemble à s'y méprendre au récit que le spectre lui a fait, de sorte qu'Hamlet vérifie ce qu'il n'avait aucun besoin de faire, la culpabilité de son oncle qui n'en supporte pas la représentation. Quel sens donnez-vous à ce théâtre, dans le théâtre, cette mise en abîme du théâtre, Pierre-Michel ?
Ah ben, je crois que c'est... Vous venez de le dire, c'est Hamlet qui s'exprime d'une certaine façon, mais d'un autre côté, c'est aussi Shakespeare qui s'exprime d'une certaine façon, parce que Hamlet est la pièce... La tragédie, en tout cas, où il y a le plus de théâtre dans le théâtre, il y a une ou deux pantomimes, il y a la pièce que vous venez de citer, mais je voudrais revenir un moment sur la pantomime entre Hamlet et Ophélie, qui se place à la scène 1 du deuxième acte. Elle est extrêmement importante parce qu'elle nous donne la clé de plusieurs choses. Qu'est-ce qui se passe ? Hamlet et Ophélie se rencontrent. Et Hamlet joue une pièce dans une danse presque rituelle dont nous ne sommes pas sûrs que le sens ne nous échappe pas un peu d'ailleurs. Et Hamlet est un maître acteur, un amateur qui joue 100 fois mieux que les professionnels ineptes de la pantomime du troisième acte, les professionnels. Ça, c'est du bon théâtre, nous dit Shakespeare, quand Hamlet rencontre Ophélie. Mais le génie de la mise en scène que Shakespeare va bien plus loin. Cette pantomime ne se déroule pas sur scène. Elle nous est rapportée par Ophélie en paroles. Et ce sont des paroles qui donnent vie à cette pantomime dans le théâtre de notre imagination. C'est une illusion parfaitement réelle. Elle prend corps dans nos esprits à travers une autre illusion, celle du langage.
Alors justement, l'illusion du langage dont on va parler vendredi à propos du roi Lear et de la scène dans laquelle Edgar, devenu pauvre Tom, guide son père à qui on a arraché les yeux au bord d'une falaise imaginaire et reconstruit tel un metteur en scène cette falaise imaginaire. Hamlet, metteur en scène, revenons-en à Hamlet, metteur en scène, avec les comédiens, hein, donc acte 3, scène 2, Hamlet, metteur en scène, donne des conseils où l'on entend quand même la voix de Shakespeare. Hein. Ne soyez pas non plus trop guindé, fiez-vous plutôt à votre jugement, réglez le reste sur la parole et la parole sur le geste, en vous gardant surtout de ne jamais passer outre à la modération naturelle. Tout excès de cette sorte s'écarte de l'intention du théâtre, dont l'objet a été, dès l'origine et demeure encore, de présenter pour ainsi dire un miroir à la nature, et de montrer à la vertu son portrait, à l'ignominie son visage, et au siècle même et à la société de ce temps, quels sont leurs aspects et leurs caractères. C'est l'essence même du théâtre, résumée dans la bouche de Hamlet, ici.
Oui, oui, c'est Shakespeare qui parle, bien entendu.
Michel Delville.
Oui, mais je pense, je vais te laisser continuer. Non,
c'est Shakespeare qui parle et qui donne des conseils aux acteurs par la voix de Hamlet. Maintenant, il y a un peu d'absurde dans l'affaire. Imaginons un instant que les acteurs qui sont sur scène et qui jouent Hamlet, la pièce, devant Shakespeare, soient des incapables, des ineptes, et qu'ils jouent mal, et qu'ils disent le passage que vous venez de lire. En dépit du bon sens, ça devient presque une comédie.
Oui, mais c'est une comédie qui est insupportable au roi, car elle est criante de vérité. Ou alors, qu'elle soit fausse ou qu'elle soit vraie, la vérité l'emporte. Parce que, même s'il joue mal, si je suis votre interprétation, mettons que les comédiens jouent de travers. Ils jouent de travers, mais c'est bien la preuve que le jeu n'est pas tout, et qu'il y a une vérité par-delà le jeu, puisque le spectacle qu'il joue, qui raconte le crime du roi, est insupportable au roi. Le roi s'en va, prend les flambeaux, tout le monde le suit, toute son escorte le suit, et Hamlet, le sentiment de la culpabilité du roi est prouvé une fois de plus, est avéré une fois de plus.
Ben, pour la première fois, je dirais.
Michel Delville.
Pour la première fois. Je ne suis pas sûr que la culpabilité du roi soit prouvée une fois de plus. Je pense que c'est la première fois que Hamlet est persuadé qu'il a raison, que le spectre est donc un spectre catholique et pas protestant, entre guillemets, ne l'induit pas en erreur.
Oui.
Pierre-Michel.
Pour la première fois, sans doute, mais on n'est même pas encore tellement sûr lorsqu'on lit le texte que c'est pour cette raison que le roi s'en va. Il en a peut-être marre pour autre chose, on dit certains critiques. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Oui. Je vous rapporte ce que certains critiques disent. Mais je parlais d'autre chose ici. Je parlais du jugement de Shakespeare sur le théâtre élisabétain par la voix de Hamlet. Lorsqu'il dit « voilà comment vous devez jouer », il est en train de donner une leçon de théâtre, de jeu au théâtre, par l'intermédiaire de Hamlet, à tous les acteurs de l'époque élisabétaine. Ce qui veut dire qu'il y en avait qui jouaient certes bien, d'après Shakespeare, mais qu'il y en avait probablement beaucoup qui jouaient mal.
Outrer les effets, ou trop les affaiblir, c'est faire rire les ignorants. Mais oui. Cela ne peut que désoler les gens d'esprit, dont un seul doit compter pour vous plus que toute une salle des autres. Ah, j'ai vu jouer de ces comédiens, et j'ai même entendu qu'on les célébrait, et avec de bien grands éloges qui, Dieu me pardonne, n'avaient ni la parole, ni l'allure d'un chrétien, d'un païen, d'un homme. Ils se dandinaient, ils beuglaient de telle sorte que j'ai pensé qu'ils avaient été façonnés par quelque apprenti de la nature, et bien mal, tant ils singeaient abominablement l'espèce humaine. Shostakovitch de Hamlet. Pour terminer avec vous, Pierre-Michel et Michel Delville, cette émission en votre compagnie, en vous remerciant d'y avoir participé.
C'est nous qui vous remercions.
Voilà, la preuve est faite qu'on peut parler 50 minutes de Hamlet sans évoquer, sans mentionner une seule fois « to be or not to be », ce qui est quand même un pari qu'on n'avait pas fait d'ailleurs avant le début de cette émission. Mais il y a tellement, tellement, infiniment de choses à dire sur cette pièce qu'on peut en parler sans fin, sans même évoquer ce que pourtant tout le monde connaît d'elle. Pierre-Michel, je rappelle que vous êtes professeur honoraire de l'Université de Liège. Michel Delville, vous êtes également professeur à Liège et vous avez écrit ensemble le livre « Hamlet & Co. » aux éditions de l'Université de Liège, paru en 2003. Lisez, chers auditeurs, Hamlet. Lisez-le, pourquoi pas, dans la traduction d'Yves Bonnefoy, sur laquelle nous avons travaillé aujourd'hui ensemble, que vous trouvez en folio. Vous pouvez le lire également. En vérité, peu importe le traducteur, l'essentiel est que vous y plongiez. Demain, suite de cette semaine sur Shakespeare, je recevrai François Larocque, qui enseigne la littérature anglaise à Paris 3 et qui viendra vous parler de Roméo et Juliette. À la technique aujourd'hui, Clément Daté, à la réalisation, François Connac. Assistants, Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Tristan Grenacia et Laetitia Cordonnier.